Bien, eh bien, nous bénissons le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits. Et comme Eric l'a dit dans sa prière, nous sommes heureux de voir chacun et de nous voir nombreux. Alors, j'ai envie de dire nombreux, oui et non, en fait. Nous sommes juste comme ça devrait être tous les dimanches. Donc, nous sommes juste à une... Encore, tout le monde n'est pas là. Hein. Si nous étions assidus, ben, nous serions tous les dimanches remplis. Alors, j'encourage les uns et les autres à prendre à cœur aussi la joie des frères et sœurs. Parce que c'est aussi dans cette dimension-là que nous venons. Nous venons pour nous, mais nous venons aussi pour les autres, pour encourager les autres par notre présence, par notre prière, par notre chant. Et donc, j'encourage les uns et les autres à maintenir cet engagement pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons lire dans Colossiens ce matin, Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Et là, nous allons lire les versets 16 à 25. Donc, l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 16 à 25. Bien, donc, si à un moment donné, quelqu'un estime que ce que je lis n'est pas dans sa Bible, vous levez la main et vous dites que je me trompe. Ça va ? N'hésitez pas. Donc si vous avez l'impression que je lis un truc et que vous, votre Bible, c'est pas la même chose, vous dites « Oh, 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 gars, tu racontes n'importe quoi, c'est pas écrit, ça va ?» Bon. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme. Amen. Lors des deux dernières prédications, nous sommes arrêtés ensemble sur un fait important qui est que Dieu accorde de l'importance aux petites choses. Si vous vous souvenez, et nous avions dit que la Bible nous montre que Dieu ne s'intéresse pas seulement aux grandes choses de nos vies, il ne s'intéresse pas seulement à nos grands moments de culte, il ne s'intéresse pas aux moments seulement où nous sommes dans des moments de prière, des moments de louange, des moments d'adoration, il ne s'intéresse pas seulement au ciel, la Bible ne s'intéresse pas seulement au ciel, à la vie éternelle, mais Dieu s'intéresse aux petites choses de nos vies. La vie chrétienne ne consiste donc pas seulement à s'intéresser aux grandes réalités, à la gloire de Dieu, à la croix, aux attributs de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, à la vie éternelle, au nouveau ciel, à la nouvelle terre qui viendra après ce monde. Être sauvé, c'est être introduit dans ces grandes réalités glorieuses, mais c'est aussi être introduit dans une réalité dans laquelle Dieu nous rend attentifs aux petites choses de nos vies, aux choses concrètes de nos vies. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui règne dans les cieux, Il est aussi le Dieu qui nous connaît personnellement et qui s'intéresse à chacune de nos vies jusque dans les petits détails. Le Dieu qui nous sauve et qui nous adopte en Jésus nous fait naître de nouveau et nous rend attentifs à toutes ces petites choses de nos vies. Des choses qui parfois semblent des détails pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui pour nous, enfants de Dieu, doivent devenir des choses importantes. Nous avions dit aussi que Dieu s'intéresse aux petites choses de nos vies, mais Dieu s'intéresse aussi à tous les instants de nos vies, à tous les moments de nos vies. Il n'y a pas des moments particuliers où Dieu veille sur nous, ou des moments particuliers où Dieu attend de nous quelque chose, il s'intéresse à tous les instants de nos vies. Parce qu'en réalité, nos vies sont faites d'instants. Un instant, puis un autre instant, et un autre instant, et un autre instant, et ça fait notre vie. Une seconde après une autre seconde, et c'est notre vie. Une minute après une autre minute, et c'est ça notre vie. Et donc, comme enfants de Dieu, nous ne pouvons pas seulement nous intéresser à quelques grands moments, au moment où nous sommes dans les cultes, au moment où nous sommes en prière, mais nous devons nous intéresser à chaque instant de nos vies, et donner de l'importance à chacun de ceux-ci. On pourrait dire que Dieu s'intéresse à notre quotidien. Dieu s'intéresse à ton quotidien. On peut dire « Dieu s'intéresse aux banalités de notre quotidien, aux choses banales qu'on fait tous les jours, qu'on fait tout le temps, eh bien ça intéresse Dieu. » Parce que ce sont des banalités, mais qui sont notre vie en réalité. Ces banalités, ce sont notre vie. Notre vie est faite de banalités. Votre vie, ce n'est pas être pendant 2 heures ici, le dimanche matin, bien qu'il faut y être. Mais votre vie, c'est ce que vous faites tout le temps, vous vous levez, vous préparez vos enfants, vos petits-enfants, vous mangez, vous buvez, vous dormez, vous conduisez la voiture, vous payez les factures, c'est ça la vie. C'est ça la vie des humains sur Terre. Et Dieu s'intéresse à notre quotidien jusque dans ses banalités. Notre monde est rempli de personnes qui se croient chrétiennes, qui se croient croyantes, souvent parce qu'elles ont été baptisées bébés, et elles pensent que parce qu'elles sont réputées chrétiennes, réputées enfants de Dieu, par exemple par un baptême, pensent que ça fait réellement d'eux des personnes qui marchent avec Dieu et qui sont connues de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, même des chrétiens qui cette fois sont des chrétiens qui ont pu être baptisés adultes, c'est-à-dire qui ont pris une décision personnelle avec Dieu, vivent dans leur quotidien comme si Dieu n'existait pas. En d'autres termes, il y a des moments particuliers où nous sommes avec Dieu, où nous louons Dieu, où nous célébrons Dieu, et pendant le reste de notre vie, sur d'autres aspects de notre vie, nous vivons comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, comme des personnes qui n'ont pas reçu de choses venant de Dieu concernant ces aspects de nos vies. Il y a des aspects de nos vies où Dieu est présent et il y en a d'autres où il est exclu, où nous faisons à notre sauce et où nous vivons comme nous voudrions. Par ailleurs, Dieu s'intéresse à notre quotidien, mais on peut aussi dire que Dieu vient à notre rencontre dans notre quotidien. Dieu vient nous rencontrer dans notre quotidien. Il est vrai que la vie chrétienne est faite de grands moments, de grands instants, des grands moments où, par exemple, Dieu nous parle, des grands moments où nous voyons Dieu agir dans nos vies, on voit, waouh, la main de Dieu qui agit dans une situation, des grands moments où nous sentons réellement que Dieu est avec nous, des grands moments où nous sentons que Dieu nous montre le chemin, on sent qu'on est perdu et on sent que Dieu nous montre le chemin, des moments où nous voyons la gloire de Dieu de façon grandiose dans nos vies, des moments où nous sommes appelés à faire des grandes choses qui sortent de l'ordinaire, où Dieu nous utilise pour faire quelque chose. Bien sûr qu'il y a de grands moments dans nos vies. Par exemple, il peut y avoir des moments où nous vivons des grands exaucements à nos prières. Nous avons prié pour quelque chose pendant longtemps, nous avons invoqué Dieu, nous l'avons pleuré, et waouh, la porte s'ouvre, Dieu intervient. C'est un grand moment, c'est un grand instant. Il y a des moments où nous sommes complètement déconcertés par ce qui nous arrive, et Dieu apporte la solution qu'il fallait au moment où il fallait, il donne la clé qu'il fallait, et la porte s'ouvre. Mais deux choses sont importantes. Premièrement, comme nous l'avons dit, le fait que nous ayons des grands moments avec Dieu ne doit pas nous faire oublier ou nous faire négliger notre quotidien. Et ne doit pas nous faire oublier les banalités de notre quotidien. Ne doit pas nous faire baisser l'attention sur comment nous vivons les banalités de notre quotidien. Deuxièmement, nous devons savoir que Dieu vient nous rencontrer dans notre quotidien. Et comme nous le voyons dans beaucoup de cas, pour beaucoup d'hommes et de femmes de la Bible, eh bien Dieu les a rencontrés dans leur quotidien, alors qu'ils vivaient leur vie normale. C'était monsieur, madame, tout le monde, ils vivaient leur vie, ils marchaient, ils buvaient, et Dieu est venu à leur rencontre dans leur quotidien. Pensez à Moïse, par exemple. Moïse qui était en train de paître les troupeaux de son beau-père, il était en train de paître les troupeaux tranquillement, il vivait sa vie normale, il faisait ce qu'il faisait tous les jours. Pour lui, c'était une banalité. Votre métier, c'est une banalité pour vous, hein. C'est ce que vous faites tous les jours, bah, c'est, voilà. Et bien, c'est ce que Moïse faisait. Et alors qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, voilà qu'il voit un buisson qui se consume et qui n'arrête pas de se consumer, et il est interpellé, il va vers le buisson, et là, Dieu lui parle. Moïse est en train de vivre sa vie normale, sa vie ordinaire, et Dieu vient le rencontrer dans sa vie ordinaire. Pensez à Gédéon. Il nous est dit que Gédéon était en train de battre du froment. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon aussi était en train de vivre sa vie de tous les jours. Le texte nous dit qu'il battait du froment au pressoir, il était en train de faire son métier ordinaire, et à ce moment-là, il voit l'ange de l'Éternel qui lui apparaît et qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors qu'il vit sa vie de tous les jours, Dieu vient le rencontrer. Dieu interrompt sa vie ordinaire pour faire une rencontre avec Gédéon. Pensez à David. Quand Samuel est envoyé pour oindre un nouveau roi, voilà qu'il arrive chez le père de David et qu'il y a tous les fils qui sont là. Et puis Samuel est là devant tous les fils qui sont tous plus beaux que les uns que les autres. Il y en a qui sont grands, qui sont très très forts, très intelligents, des bons guerriers. Et alors il dit, c'est lui. Non, c'est pas lui que Dieu choisit. Ah bon, et c'est lui. Non, c'est pas lui non plus, c'est pas lui. Et puis il arrive à la fin des fils. Et il dit, tous tes fils sont là. Ah non, il y en a un dernier qui est en train de paître les brebis là-bas très loin. Et alors Samuel lui dit, va le chercher. Et quand David arrive, Dieu dit à Samuel, c'est celui-ci que je veux comme roi. David est en train de vivre sa vie de tous les jours. Il n'est pas en train de prier, il n'est pas en train d'adorer Dieu dans la montagne, il vit sa vie de tous les jours et Dieu vient le rencontrer. Pensez aux bergers. Au berger, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Il nous est dit que des bergers étaient en train de garder leurs troupeaux les veilles de la nuit quand un ange du Seigneur leur est apparu et que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux pour leur dire que le Sauveur était né. Ils étaient en train de vivre la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend à vivre notre quotidien, à vivre notre vie normale et à nous attendre à Dieu dans notre quotidien. Nous ne devons pas attendre les grands instants, les grands moments, mais nous devons, dans les choses de la vie de tous les jours, nous attendre à Dieu. Parce que Dieu vient nous rencontrer dans notre quotidien, alors que nous sommes à l'école, alors que nous sommes en train de travailler, alors que nous sommes dans le bus, alors que nous sommes dans le train, alors que nous sommes en train de conduire, dans une réunion professionnelle, Dieu vient nous rencontrer dans notre quotidien. Vis ton quotidien normalement, mais attends-toi à Dieu dans les petites choses de ton quotidien. Alors que tu es en train de paître tes brebis, ça c'était pour eux avant, mais on dirait ici, alors que tu es en train de faire ton travail aujourd'hui, attends-toi à Dieu. Ne nous attendons pas seulement à Dieu que lorsque nous venons au culte, dans un moment de louange, un moment d'adoration, mais attendons-nous à Dieu à tout instant, à tout moment, parce qu'il s'intéresse à ces petites choses de nos vies, à ces petits instants de nos vies. Dieu peut nous rencontrer dans les banalités de notre quotidien, il peut venir nous parler dans notre quotidien. Par une pensée qui monte dans notre cœur, alors qu'on est en train de faire quelque chose. On est en train de nettoyer le sol, et puis une pensée qui vient de notre cœur, directement de la part de Dieu. C'est Dieu qui vient nous rencontrer dans notre quotidien. Dans une simple conversation, on est en train de prier dans sa vie personnelle, de prière, on est en train de prier en disant « Seigneur, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça, je ne sais pas comment aller, je ne sais pas où je vais aller. » Et hop là, dans une conversation comme ça, avec une personne lambda, peut-être même un non-croyant, paf, la réponse de Dieu qui vient. Dieu peut utiliser un âne pour nous parler, peut utiliser un humain pour nous parler, peut utiliser plein de choses pour nous parler. Ah, Voilà la réponse de Dieu que j'attendais. Dieu vient nous rencontrer dans notre quotidien. Dans un moment de famille, on est en souffrance, on n'est pas bien, on est attristé, on est par terre, et puis dans une rencontre de famille, tout à coup, on sent qu'on va mieux. On sent que, ça va, je me sens mieux, j'aurais réussi à sourire. Eh bien, Dieu utilise notre famille pour nous consoler. Quand on prie et qu'on dit « Dieu, console-le », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va envoyer Gabriel, l'ange de l'Éternel, pour nous consoler. Il va utiliser des gens autour de nous pour nous consoler. Il va utiliser notre conjoint, il va utiliser notre famille, il va utiliser nos amis, il va utiliser notre église. Dieu vient nous rencontrer dans ces petites choses-là. Il n'attend pas seulement à la porte de l'église pour que vous rentriez pour nous rencontrer, même s'il faut le faire. Mais dans notre quotidien, il vient nous rencontrer. Dans une journée de travail, il vient nous rencontrer. On est en train de travailler, on est avec des collègues, et il se passe des choses, et c'est compliqué. Et on se rend compte que, waouh, les choses s'agencent comme j'en ai besoin. J'avais peur de me faire avoir ou d'avoir des problèmes, et hop, Dieu agence les circonstances. Comme par hasard, je tombe dans le bon planning. Comme par hasard, je travaille le bon jour, j'ai mon jour de congé. Tout. Dieu agence les choses comme il fallait. Il vient nous rencontrer dans notre quotidien. Il vient à notre rencontre, dans notre sommeil parfois. On dit que la nuit porte conseil, mais encore plus quand on marche avec Dieu. Parfois on peut s'endormir avec un gros problème, avec une grosse chose, on se dit « Ouh, yaya, comment je vais faire avec cette histoire-là? Comment je vais m'en sortir ?» On dort, on se réveille, et c'est plus clair. Et parfois, on pense que c'est automatique, on pense que c'est juste l'effet du sommeil, mais en fait, Dieu parle dans le sommeil. Et dans le psaume 16, au verset 7, psaume 16, verset 7, il est écrit, c'est David qui parle. Il dit, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Alors que je dors, Dieu me parle. Voilà notre réalité. Dieu vient nous rencontrer dans notre quotidien. Dans Colossiens chapitre 3, que nous avons lu, on voit que l'apôtre Paul, après avoir longuement parlé de la position que les croyants ont en Jésus, il parle pendant longtemps de comment nous sommes pardonnés, comment nous sommes justifiés, comment Jésus a opéré son œuvre et comment nous avons les bénéfices de son œuvre à la croix. Et l'apôtre vraiment prend son temps, Colossiens 1, Colossiens 2, et puis Colossiens 3, l'apôtre Paul en vient à des aspects concrets de la vie des enfants de Dieu. C'est comme pour montrer que finalement, notre position en Jésus, elle doit avoir des conséquences dans les petits détails de nos vies. Notre position en Jésus, ce que nous vivons dans la communion avec Jésus, le fait d'être pardonné, ça doit avoir un impact dans les petites choses de nos vies. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens 3, en vient à des choses concrètes, comme les relations de famille, comme les relations de travail. Il ne parle pas seulement de la croix, il ne parle pas seulement du sang versé, il ne parle pas seulement de l'incarnation de Jésus, mais il vient aux conséquences. En d'autres termes, à chaque fois qu'on parle de l'œuvre de Jésus, nous ne devons pas oublier que c'est une œuvre qui doit avoir des conséquences dans nos vies. Ce n'est pas une œuvre lointaine qu'on doit se rappeler tous les dimanches, c'est une œuvre qui a des implications dans nos vies concrètes, pratiques, quotidiennes, dans les petites choses de nos vies. Et l'apôtre en vient en particulier aux relations de famille et aux relations de travail. Et donc il y a ce verset qui vous met de très mauvaise humeur. Et donc j'ai dit que je n'en parlerai plus et que je ferai comme s'il n'existait pas. C'est pas ? Donc les femmes, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de ce verset. Je n'en parlerai plus. Et je laisserai chacun vivre à sa sauce. Ça va ? C'est bien, je suis gentil quand même. On dirait que je ne suis pas payé pour ça, mais non, ce n'est pas vrai. C'est la parole de Dieu, hein, je prêche tout. Hein. Donc aujourd'hui, je ne prêcherai pas là-dessus, mais la semaine prochaine, la semaine d'après, je ne sais pas. C'était bien écrit, vous l'avez lu comme moi. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai rajouté, on est d'accord. Bon, voilà. Mais pas aujourd'hui, détendez-vous. Mais donc, l'apôtre Paul s'intéresse aux relations de famille. Il s'intéresse à ça. Il s'intéresse aux relations de travail des enfants de Dieu. Et on comprend donc que la réalité que nous avons en Jésus, que ce que nous louons Dieu, lorsque nous célébrons Dieu, nous ne devons pas oublier que ça doit se cristalliser dans nos vies, ça doit se manifester dans nos vies concrètes, dans nos vies de tous les jours. Alors comment vivre avec Dieu et pour Dieu dans les banalités de notre quotidien? Comment pouvons-nous faire pour vivre avec et pour Dieu dans les banalités de notre quotidien? En trois points. Premièrement, c'est un point que nous avons déjà abordé, en considérant tous les moments de notre vie et tous les aspects de notre vie comme importants. En considérant tous les moments et tous les aspects de notre vie comme importants. Et il y a un poète qui s'appelle Guy Levic et qui disait, qui écrivait dans un de ses poèmes, « Quand chaque instant te sera sacré, quand chaque minute te sera sacré, quand chaque moment de ta vie te sera sacré, alors tu seras dans le champ de gloire. » Mais c'est vrai, vous savez. Quand chaque moment de nos vies, nous y donnons de l'importance, toute notre vie est sublimée, en fait. Tout est important dans nos vies. Vous connaissez bien sûr les histoires de ces personnes-là qui disent toujours bah oui, j'ai acheté une nouvelle chemise, mais je la mettrai à une grande occasion. J'ai acheté une nouvelle montre, mais ce sera pour une grande occasion. J'ai acheté un nouveau parapluie, mais ce sera pour une grande occasion. Et finalement, cette grande occasion n'arrive jamais. La chemise devient trop petite, la montre est démodée et on ne l'a jamais mise. Pourquoi ? Parce que souvent, on vit comme ça, on vit en attendant les grands moments, on vit en attendant les grands instants, et on ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est notre vie qui est le grand moment. La vie, c'est aujourd'hui, vous savez. La vie, ce n'est pas demain. La vie, ce n'est pas quand on aura notre nouveau travail, quand on aura notre nouvelle voiture, notre nouveau boulot, lorsqu'on aura un nouveau bâtiment. Non, la vie, c'est aujourd'hui. La vie, c'est maintenant, la vie, c'est demain, la vie, c'est ça, c'est maintenant qu'il faut vivre notre vie. Et donc nous devons apprendre à considérer tous les aspects de notre vie comme importants. Rappelez-vous les textes que nous avons lus, où Dieu parle du nid d'oiseau. Dieu donne des commandements à ses enfants sur les nids d'oiseaux. Quand tu verras un nid d'oiseau, tu ne prendras pas la mer avec ses enfants. Rappelez-vous le texte de l'apôtre Paul qui demande à ce qu'on lui ramène son manteau et les parchemins. Eh bien, dans toutes ces situations, nous voyons que Dieu donne de l'importance à chacune de nos vies. Dieu nous appelle donc à vivre toute chose pour sa gloire. À vivre toute chose, à vivre chaque instant pour sa gloire. Dans Colossiens 3:17, nous l'avons lu, il est donc dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et à ce propos, Martin Luther commentait ce passage en disant, il disait, les œuvres du chrétien n'ont aucun nom, aucun temps, aucun lieu. C'est pourquoi saint Paul ne désigne pas ici aucune œuvre particulière, mais il les embrasse tout ensemble et montre comment toutes peuvent être bonnes. Manger et boire, dormir et veiller, marcher et s'arrêter, parler et se taire, travailler et se reposer, tout est excellent pourvu que tout soit fait au nom du Seigneur Jésus. Toute notre vie peut être excellente à partir du moment où elle est vécue au nom du Seigneur Jésus pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. En rendant à Dieu le Père les actions de grâce par Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à vivre toute chose pour la gloire de Dieu. Et comme disait un pasteur de cette région, il disait « Quand on vit toute chose pour la gloire de Dieu, on fait d'une petite tartine à la confiture un festin. » C'est très bien dit, vous savez, parce que c'est vrai. Lorsque toute notre vie est sainte, lorsque toute notre vie est importante, et lorsque nous voulons tout vivre pour Dieu, il y a des petites choses que nous voyons comme étant magnifiques. Parce que nous vivons ça pour la gloire de Dieu. Chaque instant, chaque moment, voilà une tartine. Ah, voilà, j'aime plus la confiture, mais c'est pas grave. Voilà un bon moment. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah ben, on va aller au cinéma. Ah ben, c'est bien. On va jouir du cinéma. On va se réjouir en Dieu à cause du cinéma. On va conduire la voiture. On va aller chez Ikea. On va passer un temps en famille. Tout ça, c'est sain lorsque nous le vivons pour la gloire de Dieu. Lorsque nos cœurs se tournent vers Dieu. Lorsque nous cherchons à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons et à le mettre à la première place en tout, alors toute notre vie devient grande. devient belle, devient importante. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est donc chercher à l'honorer en toutes choses, quel que soit ce que nous faisons. Quel que soit ce que nous faisons, nous pouvons chercher à honorer Dieu, faire ce qui honore Dieu et s'abstenir de ce qui ne lui plaît pas, en toutes choses. Dans des petits détails, parfois, on peut voir des façons d'agir dont on sait que ça plaît à Dieu ou ça plaît pas à Dieu. Mais ça, c'est dans les petites choses. S'interroger sans cesse sur la volonté de Dieu aussi. C'est aussi ça, vivre pour la gloire de Dieu. S'interroger sans cesse sur la volonté de Dieu. Dans cette situation-là, c'est quoi la volonté de Dieu? On sait que la Bible ne prévoit pas toutes les situations de nos vies. La Bible n'a pas prévu tout ce qui va nous arriver avec une solution à chaque fois. Ce serait bien. Ce serait bien s'il y avait un tableau dans la Bible avec telle situation, tu dois faire ça, telle situation, tu dois dire ça, telle situation, tu dois réagir. Mais il n'y en a pas. Enfin, si vous en avez un, vous pouvez nous le donner, qu'on en fasse quelque chose. Mais il n'y en a pas. Et donc, il y a des moments comme ça où nous devons nous arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, là? Parfois, il y a des dilemmes, hein, vous savez. Vous n'en avez pas, vous, des dilemmes. Mais parfois, il y a un tel qui m'a dit ça, je ne peux pas le dire à un tel, et comment je vais faire? Eh bien, nous interroger sans cesse sur la volonté de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est aussi faire les choses avec une intention tournée vers Dieu. Une intention tournée vers Dieu, tournée vers la gloire de Dieu. On peut donc aller au cinéma en se disant, je veux aller au cinéma parce que, j'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de me détendre parce que je dois glorifier Dieu dans ma vie, et donc, dans ma vie tous les jours, j'ai besoin de me détendre. Je ne peux pas tout le temps être sous pression. Donc je vais aller au cinéma pour la gloire de Dieu, dans le sens où je vais y aller pour prendre un peu de repos. Un petit peu me changer les idées pour aller mieux après. Je vais aller au cinéma pour vivre un temps en famille, on va discuter, on va rigoler, ça va être bien, ça va fortifier les liens de notre famille. Je vais voir ce film qui va me faire réfléchir à des choses. Voilà, donc je vis cet instant pour la gloire de Dieu. On n'est pas obligé de scinder nos vies, mais on peut tout amener pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est aussi faire les choses par l'esprit et non par la chair. Nous pouvons vivre les choses par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Dieu. En cherchant la patience, la douceur, en vivant les choses dans les fruits de l'esprit. Ben, les fruits de l'esprit pour tout ce que nous vivons. Il s'agit donc pour chacun d'entre nous d'offrir tous les aspects de notre vie à Dieu et de les mettre tous sur l'autel. Tout ce que nous sommes. Vous connaissez le verset de Romains qui dit « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme sacrifice vivant. » Et vous savez que le terme « corps » dans le texte de Romains 12:1 signifie « personne ». Parce que c'est un mot qui n'existait pas avant, le mot « personne ». Et donc quand on dit « offrir vos corps », ça veut dire « offrir votre personne ». La Bible nous invite à offrir nos personnes à Dieu, nos vies tout entières. Comme nous l'avons dit au départ, il s'agit donc qu'il n'y ait pas des domaines chasse gardée et des domaines pour Dieu. Parfois, c'est comme ça qu'on vit, malheureusement. On a les domaines chasse gardée. Seigneur, tu ne t'en occupes pas. Ça, je le fais à ma sauce. Et puis ça, Seigneur, si tu veux t'en occuper, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Parfois, c'est comme ça qu'on fait. On dit, ma vie de couple, je fais à ma sauce. Ça va. Mais ça, tu peux l'avoir. Ou alors on dit, mon argent, ça, Seigneur, tu ne t'en occupes pas, ça, je me fais à ma sauce. On a besoin d'apporter tout à Dieu, de tout mettre sur l'autel, de tout mettre pour lui, sans rien exclure. Et lorsque nous vivons toutes choses pour la gloire de Dieu, eh bien, en fait, toutes choses deviennent un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Toutes choses deviennent un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu devient une offrande que nous lui faisons et qui le glorifie. Que ce soit notre travail, que ce soit nos activités sociales, activités associatives, activités de groupe de jeunes, de mouvements de jeunesse, que ce soit nos temps de prière, que ce soit notre service dans l'église, que ce soit notre vie de couple, notre vie de famille, que ce soit nos travaux intellectuels, il y a peut-être des gens ici qui écrivent des livres, que ce soit nos lectures, nos réflexions, ou que ce soit notre travail manuel, hein, pour ceux qui font des trous dans les murs avec une foreuse, qui mettent des blocs et qui mettent des briques, et qui construisent et qui détruisent et qui font de la végétation et qui enlèvent les plantes et qui... Tout ça! Que ce soit nos loisirs, comme on disait avec le cinéma, un moment de détente, d'esprit, de corps, ou que ce soit même nos temps d'épreuve, tout dans notre vie, lorsque nous le vivons pour la gloire de Dieu, avec un cœur tourné vers Dieu, ça devient une offrande de bonne odeur devant Dieu, qui lui plaît. Il y avait un serviteur de Dieu, quand il envoyait un SMS, il terminait toujours avec cette formule. Et magnifique. Et donc il disait ce qu'il avait à dire, bonjour, Mehdi, mais voilà, je ne dirais pas ce qu'il disait, ça ne vous intéresse pas. Mais il terminait, c'est toujours le message avec « et que nos vies lui soient agréables ». Et que nos vies, c'est quelque chose ce qu'il me racontait, et que nos vies lui soient agréables. Mais c'est ça notre prière en fait, c'est ça notre prière à nous tous, c'est ça qui compte au fond, que nos vies lui soient agréables. La prière de notre vie, la prière de notre cœur tout entier, ce qui doit motiver nos intentions, c'est « Seigneur, que ma vie te soit agréable, que ma vie te plaise, que ma vie réjouisse ton cœur. » Quelqu'un d'autre disait « Notre vie entière est religion ou elle n'est rien. » Donc religion au sens foi, hein, pas au sens... Soit notre vie entière est donnée à Dieu, soit elle ne l'est pas du tout. Troisièmement, pour vivre toute chose avec Dieu, pour vivre toute chose pour la gloire de Dieu, ben nous devons développer une spiritualité du quotidien. Une spiritualité du quotidien. Cela signifie que dans la vie chrétienne, nous devons avoir des instants de prière. Nous devons avoir des moments où nous louons Dieu tous ensemble. Nous devons avoir des moments où nous prions tous ensemble. C'est ce qu'on appelle une réunion de prière. Ah, voilà. Vous savez ce que c'est une réunion de prière? Oui, je vais vous expliquer. Une réunion de prière, c'est un moment où on prie tous. Et même, il y a même des réunions de prière par Zoom. Ah, vous ne le saviez pas ça. C'est des réunions de prière, c'est-à-dire qu'on prie, mais on est tous chez nous. On ne se déplace pas, hein. On est chez nous, on est dans nos petites maisons et on prie. Ça s'appelle une réunion de prière. Vous avez bien fait de venir, hein, voilà. Qu'est-ce que je disais à propos de ça d'ailleurs? Ah, qu'est-ce que je disais? Ah voilà, c'est ça, oui. Donc nous devons avoir des moments de prière où nous prions ensemble. Nous devons avoir des moments de prière où nous prions tout seuls. Dans notre vie, au matin, au soir. Donc. Mais nous devons avoir une spiritualité du quotidien, c'est-à-dire apprendre à prier en tout temps. Avoir une spiritualité qui s'intègre à notre quotidien, à tous les moments de nos vies. Une spiritualité qui consiste à avoir constamment notre cœur tourné vers Dieu et à être constamment conscient de sa présence. Dans le psaume 16, au verset 8, cette fois-ci, il est écrit au psaume 16, verset 8, il est écrit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». C'est la première partie du verset. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». C'est ce qu'on pourrait définir comme étant la base d'une spiritualité du quotidien. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. En d'autres termes, il s'agit de vivre tout instant en étant conscient de la présence de Dieu. Il y a les moments où je prie, je ne fais que ça, je suis en train de prier, je ne fais rien d'autre. Et puis il y a les moments où je fais tout un ensemble d'autres choses, mais où je n'oublie pas d'être conscient de la présence de Dieu. Et où je travaille pour que mon cœur reste conscient que Dieu est là et pour aider mon cœur à rester au contact de la présence de Dieu. Même au cœur de nos activités, nous pouvons laisser notre cœur être au contact de la présence de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, ne pas oublier que Dieu est là. Il s'agit de garder à l'esprit que Dieu est là, que le Saint-Esprit est en nous et de garder notre esprit en contact avec ces réalités-là, quel que soit ce que nous faisons. On avait parlé il y a quelque temps du frère Laurent de la Résurrection, qui était un mystique du temps passé, et il avait parlé de son omelette, pour parler justement de la conscience de la présence de Dieu. Et voici ce qu'il disait. « Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne par terre et adore mon Dieu de qui m'est venue la grâce de la faire. Après quoi, je me relève plus content qu'un roi. Quand je ne puis autre chose, c'est assez pour moi d'avoir levé une paille de terre pour l'amour de Dieu. On cherche des méthodes pour apprendre à aimer Dieu. On veut y arriver par je ne sais combien de pratiques différentes. On se donne beaucoup de peine pour demeurer en la présence de Dieu. N'est-il pas plus court et plus droit de tout faire pour l'amour de Dieu ? Ce monsieur nous donne donc l'illustration de quelque chose qu'il faisait pour l'amour de Dieu. Il parle de son omelette, la chose la plus concrète, la plus pratique d'une vie. Il dit, je fais mon omelette pour l'amour de Dieu. Et quand j'ai fini mon omelette, si j'ai terminé, ben je me mets par terre et je dis merci Seigneur de m'avoir donné cette omelette. Donc c'est ça l'aspect du quotidien. C'est vraiment lorsque nous intégrons la prière, la présence de Dieu dans les petites choses, dans les petits moments, dans les petits instants. Et il dit qu'en fait, pour avoir une vie spirituelle, parfois on se complique la tête, on cherche beaucoup de choses, on se dit, faut prier des heures et des heures. Et il dit, ce qui serait plus simple, c'est un, de vivre tout pour la gloire de Dieu, de faire tout pour la gloire de Dieu, comme on vient de l'expliquer, et de garder en tout temps notre cœur en présence de Dieu, de garder notre cœur en contact avec Dieu. Il s'agit donc de se tenir en présence de Dieu, de garder à l'esprit sa présence, d'ouvrir notre cœur à sa présence. Il est là, il est présent, il m'aime, il a des promesses pour moi, il a une volonté pour moi, et je garde mon cœur conscient de ces choses-là. Par exemple, il s'agit de s'arrêter un instant pour adorer Dieu. Un instant pour adorer Dieu, comme ça. On est là, on fait quelque chose et on s'arrête. Il s'agit de contempler la gloire de Dieu alors qu'on est dans le bus, et de dire « Oh, que tu es grand Seigneur ». Il s'agit d'élever une parole de louange en conduisant la voiture. Il s'agit de prendre des temps de prière. On peut même le faire, et vous le faites certainement, hein, vous, quand vous êtes dans un mess. Un mess, c'est un... Vous voyez. Explique Rose ce que c'est. C'est un réfectoire. Voilà. Quand vous êtes dans un mess et que vous voulez manger, vous n'allez pas dire... Frères et sœurs, à vos collègues, nous allons maintenant nous taire et nous recueillir pour... Non. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous priez dans votre cœur. Vous vous arrangez pour lever les yeux, faire semblant, et vous priez. C'est comme ça qu'on fait quand on est chrétien, pour dire merci à Dieu. Mais on peut faire ça dans plein de circonstances. À tout moment, à tout instant. Même avec les yeux ouverts, même alors que les gens croient qu'on est en train d'être là, mais en fait, on élève son cœur vers Dieu et on le remercie, on le bénit, on le loue pour sa présence. Le fait d'être conscient de la présence de Dieu, ça va avoir aussi un impact dans notre façon de nous comporter. Quand je suis conscient que Dieu est là, que Dieu me voit, que Dieu m'entend, ça a aussi un impact sur comment je me comporte. Il y a quelque temps, dans les temps passés, il y avait des chrétiens qui avaient dans leur maison une inscription murale. C'est assez vieux. Et cette inscription murale qui était au mur disait ceci. Christ est le chef de cette maison. L'invité invisible de chaque repas et l'auditeur silencieux de chaque conversation. Vous avez déjà vu ce truc-là? Ouais. Donc c'est des chrétiens, ils ont ça dans leur maison. Mais c'est magnifique. C'est magnifique et c'est un peu ça en fait auquel on est appelé. C'est beau, Christ est le chef de cette maison. Christ est l'invité invisible de chaque repas. On est là tous ensemble, on mange, mais on sait que Jésus est là. Il est l'invité invisible, il est au milieu de nous, il est dans cette maison. Et alors Christ est l'auditeur silencieux de chaque conversation. Ça change nos conversations, n'est-ce pas? Si on est conscient qu'il est là. On ne discute pas de la même façon, on ne parle pas des mêmes choses. Mais c'est ça, vivre avec Dieu au quotidien. Il est l'auditeur silencieux de ma vie, l'auditeur silencieux de nos conversations, et on est conscient qu'il est là. Et on peut donc le louer, le bénir pour ce qu'il fait. Colossiens 3, 23 à 24 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. » Voilà notre appel à tous et à toutes. Dieu veut nous faire rentrer dans le ciel, il veut nous faire vivre la vie éternelle, mais avant ça, sur terre, il veut nous appeler à vivre pour sa gloire, à vivre en tout temps avec lui, en toutes choses, à vivre notre vie. On n'est pas appelé à se retirer, on est appelé à vivre notre vie, mais à la vivre pour Dieu, pour la gloire de Dieu, en toutes choses, en tout instant, dans les petits détails, dans les petites choses. C'est là que Dieu se glorifie, c'est là que Dieu nous bénit. Et c'est là qu'il fait de notre édifice, de notre vie, un édifice pour sa gloire. Amen. Voilà la fin de cette série de trois prédications. Et que Dieu nous bénisse et nous aide les uns et les autres à vivre ces choses et que nos vies lui soient agréables.